Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité, Diversité de l'Université Lyon 1. Amphi 25, parlons discrimination avec Floriane et Justine.
Raconter son histoire, parler de soi, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on a imaginé l'Amphi 25 comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant, libre de tout jugement, où chacun et chacune peut parler de ses différences.
Mais je rappelle pourquoi c'est 25, c'est parce que la loi française reconnaît 25 critères de discrimination.
Dans cet épisode, on va parler du sexisme dans le sport et de la place des femmes dans le milieu sportif, à commencer par les formations sportives à l'université.
Tout est parti d'une rencontre avec Emma, qui est en deuxième année de STAPS. C'était un rêve depuis longtemps pour elle d'aller en STAPS, et plus tard, elle voudrait devenir enseignante-chercheuse dans une université ou bien enseigner le sport dans un grand lycée français à l'étranger. Emma, elle a rencontré deux difficultés majeures en STAPS. D'abord, elle a un bac L, donc c'est un vrai challenge pour elle de suivre cette formation parce qu'il n'y a pas que du sport, évidemment. Il y a aussi pas mal de matières scientifiques. Et ensuite, elle est une femme. Ça paraît bête, mais oui, elle doit se battre pour être reconnue et respectée par les autres étudiants en tant que femme sportive.
L'Amphi 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien.
Peut-être que tu peux deviner à quoi ressemble l'Amphi 25 idéal pour Emma. Je te donne un petit indice, son sport de spécialité, c'est le volley.
Ça fait un peu cliché, mais je dirais quand même dans un gymnase, parce que je suis quand même assez sportive. Et dès que je suis dans un gymnase, je me sens hyper bien et hyper à l'aise. Et donc je trouve ça assez cool d'être là-bas. STAPS, tout d'abord, c'était pour moi un rêve depuis la cinquième. J'ai eu énormément de professeurs de sport en fait, qui m'ont donné cette envie de rentrer en STAPS. Et vraiment, en fait, je regrette pas du tout parce que c'est vraiment une école qui est avec une ambiance vraiment agréable et vraiment, je regrette pas du tout mon choix. C'est vraiment une entraide que certaines facs n'ont pas. Et puis, tout le monde est dynamique, a le sourire tout le temps et c'est vraiment agréable.
Et le sport, ça représente quoi pour toi ?
Donc, comme je l'ai dit, ça me permet de m'évader. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est vraiment important dans la vie de tous les jours. Parce que, voilà, des fois, on est confronté à des choses difficiles dans la vie. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen de penser à autre chose et toutes ces choses-là. Et puis, la recherche d'aller plus loin, de la compétence, de toutes ces choses-là et tout. C'est un peu un défi aussi au quotidien. Et c'est ça que j'aime principalement dans le sport, du coup.
Et comment ça se passe avec les autres étudiantes et étudiantes de ta formation ?
Ça se passe plutôt bien. Je suis quand même quelqu'un qui est assez sociable et extraverti. Voilà. Et puis, on lit des relations très fortes. Je pense que le sport aussi, ça nous permet de nouer des relations beaucoup plus intenses. Et donc, ça nous lie plus.
Et pour toi, qu'est-ce que ça implique d'être une femme en STAPS ? Et comment tu vis le fait d'être une femme en STAPS ?
Alors, c'est vrai dans un milieu sportif, c'est toujours compliqué d'être une femme, ça c'est sûr. Et je pense que ça le sera encore pendant très longtemps. En fait, nous en STAPS, les filles, on doit constamment se battre pour avoir une place au milieu des garçons. Parce qu'il y a énormément de remarques sexistes. Et je pense que c'est fait inconsciemment, ils s'en rendent pas compte. Je pense que on a tellement un ancrage de sexisme dans notre société que, au final, en fait, c'est vrai qu'ils sont imprégnés dedans et beaucoup de personnes sont imprégnées dedans et ça les choque presque même plus de faire certaines remarques. En fait, on doit toujours se justifier de pourquoi, par exemple, on a eu cette note parce que les garçons, soi-disant, y arrivaient mieux que nous. Même au niveau, tu sais, on a des barèmes différents en fait entre les garçons et les filles. Ils comprennent toujours pas cette justification de pourquoi nous avons un barème différent entre les garçons et les filles. Et voilà, on doit sans cesse se justifier. Et et se battre.
Est-ce que tu peux me détailler un petit peu le genre de remarques que tu as pu entendre ou recevoir ?
Moi, je vais prendre l'exemple. Donc, j'ai fait badminton l'année dernière et j'étais face à un ami, donc à moi, qui est un garçon du coup. Et en fait, je l'ai battu de 10 points à peu près, on va dire. Et à la fin du match, il m'a regardé, il m'a dit de toute manière, c'est moi qui t'ai fait gagner. Voilà, je me suis fait perdre des points moi-même et tout. Et donc, moi, je suis allée voir le groupe d'amis qui nous attendait pour qu'on finisse notre match. Et je leur ai dit, oh, c'est trop bien, j'ai gagné et tout. J'étais fière de moi d'avoir gagné. Et lui, il est arrivé derrière moi, il leur a dit, mais vous savez, c'est grâce à moi qu'elle a gagné. Donc voilà, il ne faut pas trop qu'elle se montre et tout. Et c'est vrai que je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis et c'est... Et il n'était même pas choqué que je lui dise ça, quoi. J'ai pu faire athlétisme aussi. Donc dans tous les sports, il faut savoir qu'il y a des barèmes différents qui ont été établis scientifiquement par rapport à nos aptitudes entre une femme et un homme, car on n'a pas les mêmes aptitudes physiologiques. Donc ils ont établi des barèmes spécifiques en fonction de tous les sports. Et voilà, donc par exemple, j'ai pu avoir une meilleure note qu'un ami à moi, encore une fois. Et donc, il m'a dit oui, mais c'est parce que t'as bien vu, t'as couru moins vite, t'as fait un moins bon temps que moi et t'as une meilleure note que moi. Il a dit c'est injuste, je comprends pas et tout. Je lui ai dit mais écoute, nous, pour avoir un 20, faut qu'on se démène autant que vous pour avoir un 20 aussi. Et c'est normal. Enfin, je lui ai dit tu devrais être content pour moi et tout. Et voilà, il comprenait pas encore une fois pourquoi j'avais une meilleure note que lui.
Et qu'est-ce que tu as ressenti en voyant la façon dont on se comportait avec toi par rapport à tes résultats, en fait ?
C'est vrai que j'étais un peu déstabilisée parce que tu te remets forcément un peu en question. Tu te dis, mais est-ce que c'est de ta faute ? Ça peut en toucher beaucoup. Moi, je sais que j'ai quand même des barrières par rapport à ça parce que j'ai été longuement confrontée à ça, à des remarques comme ça. Mais c'est vrai que... Tu te remets un peu en question indirectement, tu te dis mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que on devrait vraiment avoir des barèmes différents ? Est-ce que au final c'est vraiment injuste ? Et voilà, tu te poses vraiment ces questions et en fait de se poser ces questions, je trouve ça tellement triste que au fur et à mesure que j'avais des remarques comme ça, c'est pour ça que je leur montrais vraiment ce que je ressentais, quoi. J'étais déçue. Frustrée et à chaque fois je leur disais mais vous devriez être content pour moi en fait, tout simplement.
Mais est-ce que tu voyais une réaction de leur part après que tu leur aies dit c'est pas normal ce que vous me dites ? Est-ce qu'ils se remettent en question eux en fait ?
Bah ça dépend des garçons. C'est vrai que ce qui est assez triste c'est que chez certains garçons il n'y a aucune remise en question en fait au final parce que voilà, comme je dis, je pense que dans notre société, il y a tellement cet ancrage de différence encore entre femmes et hommes que pour eux, c'est normal, en fait, de réagir comme ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi cet effet de groupe, le fait de, voilà, d'être entouré d'autres garçons, en fait. Voilà, ils essayent de montrer que oui, j'ai besoin d'être plus fort que les filles. Oui, j'ai besoin de montrer que je suis le plus fort. Et ça, c'est quand même très présent chez les garçons, quand même.
Et on avait déjà un peu discuté ensemble une fois et tu m'avais dit aussi avoir reçu des moqueries de la part du personnel enseignant. Est-ce que tu peux un peu me parler de ça ?
On parlait de nos sports et notre professeur nous demandait en fait quelle était notre spécialité à chacun. Moi j'ai répondu le volley et tout et elle m'a regardée et elle m'a dit mais tu me parais vraiment petite pour faire du volley et tout. Elle dit mais tu y arrives et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je me suis dit, pour le coup, c'est vrai que venant d'un élève, ça m'aurait déjà frustrée. Mais pour le coup, venant d'une professeure, ça m'a fait mal. Ouais, ça.
Est-ce que tu t'attendais à ce que tes études en STAPS se déroulent comme ça, c'est-à-dire avec, on va dire, la menace un peu constante de subir des attaques un peu de la part des hommes, et même pas seulement des hommes d'ailleurs ? Et à devoir lutter tout le temps en fait, pour prouver ta valeur en sport en tant que femme.
Je m'y attendais forcément parce que durant toute mon éducation, donc avant l'université, donc principalement au collège et lycée, les professeurs, ils ont été, j'ai eu certaines remarques en fait de leur part aussi, et beaucoup de remarques, notamment au collège, de certains de mes camarades, donc des propos voilà sexistes, de jalousie, voilà. Et ouais, d'une certaine façon, du coup, je m'y attendais. Et je me suis dit, bah voilà, tu vas essayer de changer les choses comme tu peux, d'essayer de les faire réagir, de leur faire comprendre que ce qu'ils disaient, c'était pas normal.
Est-ce que le fait, disons, d'avoir une mentalité de sportive, ça influence ta réaction par rapport à ces comportements ?
C'est vrai que nous, en tant que sportifs, on est très combatifs, donc dans la poursuite de gagner par exemple des matchs donc dans nos sports et tout ça. Et ouais, forcément, moi, ça me je me dis que si chacune d'entre nous se bat malgré que toutes ces difficultés, je me dis que ouais, un jour on avancera, parce qu'on a j'ai déjà vu qu'on avait quand même avancé au niveau de l'égalité des hommes et des femmes, hein. Et ouais, du coup, je me suis dit bah en fait, Emma, enfin, faut jamais que tu te laisses faire, et que toujours que t'ailles de l'avant, et que ces remarques sexistes, elles ne t'affectent pas forcément. Voilà, j'essaye de faire un travail sur moi-même, de me dire que voilà, il faut que je retienne ces remarques et que je me batte tout le temps pour changer ces choses-là.
Et est-ce que pour toi, poursuivre des études sportives, au-delà du fait que ça te plaise personnellement, est-ce que tu vois ça aussi comme une façon de défier, j'ai envie de dire, la domination masculine dans ce milieu, enfin, en tout cas dans le milieu sportif ?
Oui, totalement. Ouais. C'est vrai que c'est aussi une des motivations de montrer qu'une femme peut y arriver dans un domaine en fait, à dominante masculine. En fait. Par exemple, quand on voit la télé, les commentateurs sportifs sont masculins, tous les directeurs des grandes fédérations sont des hommes, la plupart. Et tu te dis, ouais, y a un problème, tu vois. Et pourquoi les femmes n'auraient pas ces places importantes à diriger ? Elles sont tout autant capables, en fait. Et donc oui, d'une certaine manière, moi, ça me motive aussi de me dire que quand j'aurai le métier que je voudrais, la place que je veux, en fait, après je me dirais Emma, t'as réussi à défier cette société malgré toutes les embûches que t'as pu avoir, et de leur montrer que oui, regardez, les femmes réussissent tout autant que les hommes.
Et est-ce que tu t'attends à devoir continuer à lutter dans ta carrière pour te faire respecter dans ce milieu professionnel qui potentiellement sera encore à dominante masculine ?
Oui, de toute manière, voilà, je sais que malheureusement, je pense que dans notre génération, jusqu'à la fin de notre carrière, on va devoir lutter encore et encore pour atteindre nos objectifs, pour montrer que nous sommes plus fortes, qu'on en est toutes autant capables, comme je l'ai dit avant. C'est assez décevant, en fait, de se dire qu'on va devoir se battre toute une vie alors qu'un homme, par exemple, n'a pas à faire ces choses-là.
Qu'est-ce que tu aimerais dire aux lycéennes qui envisagent de faire des études sportives et qui redoutent d'être la cible de ce genre de comportement, disons malveillant, comme toi, tu as pu en faire l'expérience ?
J'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est de poursuivre leurs rêves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches qu'elles vont rencontrer. Et quitte à se battre constamment, quitte à ne pas se sentir bien et tout, il faut leur montrer qu'on en est tout autant capable. Il faut leur montrer que nous aussi, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit d'être heureuse, on a le droit de se sentir égale au final. Des hommes, et donc je les encourage fortement à rentrer dans cette filière.
Et si les étudiants qui t'ont maltraité en raison de ton genre entendaient ton témoignage, ou alors d'autres étudiants qui auraient eu des propos ou des comportements similaires avec des femmes de leur formation, quelle réaction tu espères de leur part ?
Déjà, j'espère qu'ils ont réfléchi à ce que j'ai pu leur dire. Il faut juste en fait que chacun réfléchisse aux conséquences d'après, qu'il sache que ça peut faire très mal. Donc ouais, ça peut avoir des conséquences assez importantes selon les personnes.
Tu me parlais des différences de barème entre étudiantes et étudiants dans les activités sportives. Comment tu réagirais en fait à des critiques qui diraient ben voilà, c'est la preuve que les femmes ne sont pas l'égale des hommes, en tout cas dans le sport?
Je leur dirais que c'est vrai qu'il est évident que physiologiquement nous sommes pas égales. Donc la preuve en est que même à haut niveau, voilà, il y a toujours des différences au niveau des temps, des performances. Mais que malgré cette différence physiologique, il n'y a aucune différence à avoir parce que nous, ce qu'on produit à haut niveau, c'est exactement ce que les hommes produisent à haut niveau, en fait. Pour atteindre cette performance, on va viser les mêmes compétences que les hommes. On va ressentir les mêmes choses que les hommes. Ça nécessite un entraînement aussi important que les hommes. Et donc, pour moi, au fond, en fait, il n'y a pas de différence voilà, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'entraînement, sur le plan de plein de choses, en fait.
Bon, Floriane, entre nous, est-ce que ça te surprend vraiment que des étudiants aient des comportements et des propos sexistes en STAPS ?
Non, pas vraiment, mais ça devrait nous surprendre. On n'aurait pas dû s'y habituer.
On se rend compte que depuis l'enfance, on reçoit comme message que les garçons sont meilleurs en sport que les filles, ou qu'il y a des sports de filles et des sports de garçons. Et cette conviction se perpétue jusqu'à l'âge adulte et dans le sport de haut niveau.
Les femmes ont-elles aujourd'hui pleinement leur place dans le monde du sport ? À quel point les normes de genre entrent-elles en jeu dans les formations sportives ? D'où vient ce sexisme chronique dans le sport et comment se manifeste-t-il ? Pour le savoir, on a rencontré Noémie Drivé, Valentine Lopez et Justine Caro.
Noémie Drivé est professeure d'EPS au lycée et doctorante à l'université Lyon 1. Elle s'intéresse à l'histoire du sport, aux manifestations du sexisme, des normes de genre et des LGBT-phobies en STAPS et leur impact sur les personnes concernées. Elle prépare une thèse sur les rapports de domination entre les sexes et entre les sexualités dans les formations au métier du sport.
Valentine Lopez et Justine Caro sont membres de l'association lyonnaise Les Débuteuses. C'est une équipe de football féminine, inclusive et militante qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Pour commencer, on a demandé à nos invités si les femmes sont aujourd'hui vraiment acceptées dans le monde du sport.
Aujourd'hui, je pense que en termes de légitimité sur la place des femmes dans les différents secteurs sportifs, il n'y a pas d'interdiction formelle, institutionnelle, et la place est là. Après, dans tous les processus et les mécanismes sous-jacents qui peuvent avoir lieu, qui peuvent venir démotiver ou qui peuvent venir dérouter un petit peu, bloquer les parcours, bloquer les carrières, est-ce qu'ils sont encore présents aujourd'hui? Ça, c'est sûr, oui, en termes de sexisme, en termes de lesbophobie, en termes d'invisibilité. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est encore des mécanismes qui sont présents dans le milieu sportif.
Et du côté du foot, est-ce qu'elles sont acceptées aujourd'hui?
Je pense que dans le foot, il y a quand même un bon apanage de la masculinité qui est encore présent, d'où la raison d'être des débuteuses. Autrement, je pense qu'on n'aurait pas fait une équipe inclusive et militante.
Moi, je dirais que par rapport, j'ai connu un peu les deux milieux. J'ai connu à la fois le foot masculin et le foot féminin, et c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même motivation. Je veux dire, quand j'ai fait du foot masculin, que j'ai commencé à l'âge de 5 ans à peu près, c'était logique. C'était pas, on m'a pas dit non, ne fais pas ça, on m'a pas dit c'est pas pour toi, voilà, j'ai été inclus directement, ça a été logique. Et donc ainsi j'ai continué jusqu'à mes 12 ans quand même, et on m'a jamais refusé, même en montant les échelons, on m'a jamais refusé quoi que ce soit. On m'a pas dit c'est pas normal, tu dois pas faire ça, tu dois changer de sport. Donc c'est je pense une différence, et même quand on jouait en bas, quand on jouait vraiment dans la rue, on m'a jamais reproché quoi que ce soit, alors que d'autres personnes, oui, même des filles, voilà, quand on jouait dans la cour de l'école, c'était 30 gamins qui jouaient, il y a peut-être une fille, et la seule fille qui jouait, c'était un garçon manqué, le fameux terme, garçon manqué, qui est problématique.
Si je peux me permettre, je trouvais ça intéressant, parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser au fait que, justement, l'interdiction, elle n'est pas... Aujourd'hui, on entend souvent, tout le monde peut tout faire, les sports sont ouverts à tout le monde, etc., mais dans le fond, voilà... Si je suis un petit garçon, on va me dire, il n'y a pas de souci, je peux faire du foot, on va rien me dire, mais si je suis une petite fille, toutes les petites remarques qu'il va y avoir derrière, qui sont pas forcément des interdictions directes. La fédération de foot autorise les femmes à faire du foot, mais toutes ces petites injonctions au quotidien qui vont venir marquer en fait les corps, quoi.
Et du coup, Noémie, pourquoi il y a des sports considérés comme plus féminins et d'autres qui sont considérés comme plus masculins ?
Alors, je pense que dans l'histoire de chaque sport, la construction de chaque sport et les valeurs que les sports peuvent diffuser, ça impacte cette sexuation, entre guillemets, des pratiques sportives. On le voit avec la gymnastique, c'est un des sports qui est beaucoup étudié en STAPS, dans comment est-ce que c'est un sport qui évolue à travers l'histoire, qui au départ est un sport très masculin pour préparer les soldats, préparer des hommes forts, musclés, qui peuvent servir à la nation, etc. Et puis comment au fur et à mesure des années, ça devient un sport plus esthétique, plus gracieux, et donc du coup qui va être plus valorisé pour les femmes. Et dans l'histoire de chaque sport, en fait, il y a ces valeurs qui sont développées et ces caractéristiques qui sont associées en termes de grâce, d'esthétique, de force, de puissance. Et comme chaque valeur est associée soit au féminin, soit au masculin, ça vient dissocier les pratiques sportives.
Et du coup, on parle de d'hommes forts, tout ça, de puissance. Est-ce qu'il y a un lien entre virilisme et sexisme dans le sport ?
Ouais, moi je pense qu'il y a un lien. Dans le sens où plus un sport va venir construire et renforcer cette idée de masculinité hégémonique un peu totémique de qu'est-ce que doit être entre guillemets un homme, plus si une femme rentre dans ce milieu, et ben du coup qu'est-ce que c'est finalement la masculinité si une femme aussi peut faire la même chose. Et donc du coup, il y a cette volonté de se dissocier aussi. Quand plus un sport est considéré comme viril, plus on se dissocie du féminin, plus on se dissocie de toutes ces valeurs qui sont considérées comme féminines. Donc je pense que c'est lié.
Et du coup, en fait, il y a le foot qui est considéré comme un sport masculin en France, alors que, je sais pas, aux États-Unis par exemple, c'est un sport qui est plutôt féminin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que le foot soit un sport masculin ? En France.
Avant tout, les femmes jouent depuis très très longtemps au foot. L'apparition des clubs de foot des principales sections masculines et féminines, ça date de la fin du 19e siècle, comme les Girondins de Bordeaux en 1881, l'Olympique de Marseille en 1898. Il y en a qui sont plus vieux, mais en général, ça date de cette période-là. Les premiers matchs internationaux sont au début du 20e siècle. Et avant la Première Guerre mondiale, il y a énormément de femmes qui jouent au foot. Et c'est en fait un sport de classe à l'époque. Aussi, c'est ça le problème, c'est que c'est les hautes classes qui vont jouer au foot. Il y a vraiment cette idée que c'est des classes supérieures, et donc les femmes peuvent, vu que c'est un sport de classe supérieure, les femmes aussi peuvent le faire parce que les hommes sont trop occupés. Et c'est vraiment la bascule, elle vient après la Première Guerre mondiale. Et pourquoi, par rapport à la question par rapport aux États-Unis? Parce qu'il y a la notion de football américain aux États-Unis, le soccer comme ils appellent ça, c'est un sport c'est un sport faible. Et en France, il y a aussi l'idée qu'on n'est pas un pays de foot. Qui est assez importante par rapport aux autres pays britanniques ou d'autres, on n'a pas cette culture du foot pour différentes raisons. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça ne suit pas derrière et que ça reste un sport masculin, parce que vu qu'on n'est pas un pays de foot, toute la société ne vit pas autour du foot, donc ça ne se développe pas assez jusqu'au foot féminin, malheureusement aussi. C'est ça le problème. En Angleterre, par exemple, le foot féminin commence vraiment à décoller. C'est une super chose. Et ils ont presque rattrapé leur retard en un an. Ils avaient beaucoup de retard, ils l'ont rattrapé en un ou deux ans.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet des débuteuses ?
L'idée, comme tu l'as tout à dit tout à l'heure, l'idée c'est qu'on est une association de foot inclusive et militante. Donc pourquoi inclusive ? Parce qu'on est parti justement de cet état de fait qui est, il y a quand même une certaine marginalisation des femmes et d'un certain nombre de groupes. Dans le foot, souvent, c'est quand même plus les hommes qu'on trouve sur les terrains, etc. Et donc, à partir de cet état de fait, on s'est dit, comment on peut essayer de rendre cette pratique pour tout le monde, pour toutes, surtout. Et d'où, après, l'idée des débuteuses. On s'est dit, on va créer une association et on va être aussi militante. Et notre geste militant principal, ça va être l'idée de se réapproprier ce terrain. Ce terrain qu'on peut pas toujours avoir, et pas si facilement en tout cas, dans l'espace public, et surtout en dehors des fois aussi des clubs institutionnels. Pour vraiment une petite anecdote, il y a pas plus tard, moi je m'entraîne aussi en club, on a des fois on s'entraîne aussi sur des terrains de ville, parce qu'on n'a pas assez de place pour jouer tout le temps, sur le terrain, on va dire, du club. La dernière fois, on est arrivé, on était toute la section féminine, il y avait une vingtaine de mecs, on va dire, qui étaient sur le terrain. On a eu le droit à tout ça pour des femmes. Alors donc c'est vraiment pour montrer à quel point c'est pas si facile et notre place elle est encore à prendre et elle n'est pas donnée. Donc en fait, d'où la question du militantisme dans les débuteuses. Après, c'est parce qu'on aime le foot aussi et qu'on est toutes des passionnées du foot, on aime toutes taper dans le ballon, etc. Et puis peut-être parce qu'effectivement, en France quand même, le foot reste un sport très pratiqué quand même. Même si c'est pas, il y a pas cette culture là dont tu parles, et qui reste aussi quand même un lieu de la masculinité pas mal.
Mais par rapport à d'autres sports collectifs comme le basket, le handball ou le rugby, il y a bizarrement moins de problèmes. C'est-à-dire que du hand féminin, on va en parler. Du basket féminin, j'ai l'impression que ces sports sont un peu plus accessibles, vu que c'est moins masculin, vu que c'est plus mixte entre parenthèses. Il y a moins de problèmes avec, alors que le foot, c'est vraiment le centre d'intérêt de la masculinité. Et donc, on est mis de côté. C'est pour ça que je pense que c'est aussi le plus important à se réapproprier de ce point de vue-là.
Donc moi, en fait, j'ai recueilli le témoignage d'une étudiante en STAPS qui s'appelle Emma. Emma, elle m'a dit qu'être une femme en STAPS, ça demande de se battre tout le temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que ça a de particulier d'être une femme en STAPS ?
Ouais, ce que tu viens de dire, ça résonne un petit peu avec... beaucoup d'entretiens que j'ai pu faire aussi pour ma thèse avec des étudiantes, et le discours qui revient très souvent, c'est être une femme en STAPS, c'est possible, mais il faut savoir s'imposer, il faut pas se laisser marcher sur les pieds, il faut avoir un caractère prononcé, il faut être forte, il faut pas se braquer à la moindre blague, être trop susceptible. En fait, il faut savoir s'adapter, faire face aux blagues en les prenant un petit peu à la rigolade et pas se braquer, quoi. Et puis il faut savoir s'imposer, faire sa place, performer sportivement pour montrer qu'elles sont légitimes, qu'elles ont toute leur place en STAPS. Mais c'est vraiment ce discours, ouais, qui revient très souvent, de savoir prendre du recul en fait par rapport à toute cette ambiance pour pouvoir être bien et être à l'aise en STAPS.
Est-ce qu'on peut développer un petit peu sur comment se manifeste le sexisme dans le sport, Noémie, d'abord, par exemple ?
Il y a plein de petits processus, en fait, plein de petites injonctions un peu quotidiennes. Ça peut être sur la tenue vestimentaire, hein, les remarques qu'elles écopent sur « Ah, mais t'es tout le temps en jogging, ah, mais t'es pas maquillée, ah, mais... » Ou alors à l'inverse, ça peut être aussi dès qu'une fille est en jupe et en talon, siffler, crier, faire des remarques. Donc c'est soit un trop de féminité entre guillemets, soit pas assez. Elles doivent tout le temps trouver un juste milieu, donc par rapport à l'esthétique, à la tenue. Et puis ça peut être aussi au quotidien dans les remarques sur les performances sportives. Le fait de dire tout le temps, c'est souvent sous la forme de blagues, hein, c'est souvent de l'humour, hein, mais qui est quotidien sur façon t'es moins forte, t'es une fille donc c'est forcé que t'es moins forte, t'as moins de capacités, moins de muscles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est rabâché quand même quotidiennement et qui se retrouve même dans les barèmes différenciés, dans l'évaluation en STAPS, et du coup qui est intériorisé, qui est intégré. Et quand j'interroge les étudiantes, elles le disent, hein, de toute façon on n'est pas capable, on est moins capable, on a moins de possibilités, on sera forcément moins forte, etc.
Et du coup, sur les barèmes de notation, justement, ils sont différents entre les femmes et les hommes, enfin entre les étudiantes et les étudiants en STAPS. Est-ce que c'est pas une preuve que les femmes sont moins fortes en sport ? Enfin, c'est provocateur, hein, quand je le dis, mais...
Eh ben, en tout cas, c'est comme ça que les étudiants et étudiantes le perçoivent. Donc, c'est vraiment dans les discours, c'est vraiment marqué, c'est vraiment prononcé. C'est justifié comme étant, ça va de soi, ça vient de la nature, physiologiquement, biologiquement. Les hommes sont plus forts, les femmes sont moins fortes. Et que ce soit étudiants et étudiantes, les deux le disent. Et il n'y a pas ce recul à se dire, mais est-ce que c'est vraiment le groupe des hommes, est-ce qu'il est vraiment aussi homogène que ça, pareil pour les femmes. Et c'est justifié par par la nature, biologique, c'est justifié par des arguments qui disent bah c'est un discours officiel, de toute façon ça a été réfléchi, ça a été pensé par des enseignants-enseignantes, mais aussi par des fédérations sportives, et si même les fédérations sportives le font, c'est que c'est juste en fait, c'est que c'est équitable, et donc il n'y a pas d'autre choix possible. Il y a très très peu de discours étudiants-étudiantes qui viennent remettre ça en cause, ou qui viennent le questionner. Il y a quelques étudiantes qui trouvent quand même ça très dévalorisant, très infériorisant, et qui en souffrent un petit peu, parce qu'elles ont l'impression qu'il faut encore plus du coup qu'elles prouvent leur place, et au final on leur rappelle tout le temps, ouais t'as eu une bonne note, t'as eu 18, mais t'as le barème fille quoi.
Mais c'est intéressant par rapport à ce qu'il disait par rapport au barème, parce que donc j'ai connu dans le milieu scolaire, donc au masculin, l'histoire des barèmes, et alors ça se voit pas sur un podcast, mais donc je suis assez fine de corps en général, je fais 55 kilos pour 1m85, même si j'ai fait beaucoup de sport, j'ai un problème sur la prise musculaire. Et sur certains sports, notamment les sports de bras ou du javelot, des choses comme ça, bah les barèmes étaient un vrai problème, parce que je suis sûr qu'en mettant tout le monde au niveau, j'aurais pu avoir une note normale, mais les barèmes masculins étaient normaux, sauf que bah, je me faisais... Enfin, j'étais pas ridicule, mais j'étais pas calibré pour ces barèmes-là. Et il y a l'exemple du javelot, mais il y a plein d'autres exemples où effectivement, bah, c'est pas parce que j'étais un garçon que j'étais forcément meilleur que les filles. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était totalement injuste, mais déjà aux universités, mais au plus tôt au collège, au lycée.
Et du coup, chez les débuteuses, quelle expérience de sexisme vous avez pu avoir ?
Quand j'ai commencé le foot, j'étais dans un club de la région lyonnaise. Et alors c'est vraiment un sexisme ordinaire, mais je trouve que c'est assez... ça veut dire des choses aussi. En fait, le club dans lequel j'étais avait juste commencé à ouvrir sa section féminine. C'était la première année. L'équipe, on s'entendait très bien, c'était vraiment génial. Mais par contre, en fait, ils n'étaient pas là derrière pour nous soutenir du tout, parce qu'ils n'avaient pas prévu de coach. On ouvre une section féminine sans coach, bon, bah, il y a quand même un certain désintérêt, enfin... on s'entraînait pas sur le terrain. Nous, on s'entraînait dans le champ, un peu à côté. Enfin, c'était pas vraiment c'était un truc avec plein de boss, etc. Enfin, on peut pas vraiment faire du foot là-dessus. Il y avait quand même des petites cages, mais sans filet, etc. C'était vraiment un truc un peu, une espèce de, je sais pas comment dire, mis à part champ. Enfin, c'était pas très pratique comme condition. Puis c'était assez drôle parce que c'était pas éclairé alors que c'était la nuit. Donc en fait, on était éclairé par les spots des trucs qui étaient à côté où les garçons s'entraînaient. Donc en fait, il y avait un espèce de trucs comme si notre place était, bon allez, pourquoi pas, on ouvre une section féminine, mais on va pas non plus se donner les moyens pour vraiment la développer. Ouais, là, c'est pour ça qu'après, je suis partie aussi chez les débuteuses, parce que ça m'a fait poser des questions au fur et à mesure.
Noémie, c'est quoi l'image stéréotypée de la sportive?
Ça dépend si on prend l'idée du stéréotype négatif de la sportive qui est musclé, qui est carré, enfin, je sais pas.
Je sais pas, mais dans le foot, mais peut-être que oui, quand tu disais Noémie, la femme un peu carrée, etc. En fait, c'est peut-être la femme qui échappe aux critères de la féminité, parce qu'elle met en scène son corps aussi. Elle a une certaine performance dans son corps, etc. Donc oui, elle va être musclée, et donc finalement, c'est pas ce qu'on attend d'une femme. Au départ, c'est pas. D'ailleurs, on l'attend pas forcément à jouer avec ses muscles, quoi, et à montrer qu'elle est forte et qu'elle est performante. Mais du coup, oui, je pense que celle qui n'est pas vraiment dans les critères de la féminité telle qu'on l'entend traditionnellement.
Ta réponse, elle me fait penser à. En fait, il y a cette image stéréotypée, mais j'ai l'impression que c'est pas l'image qu'on voit dans les médias. C'est pour ça que j'avais eu du mal à répondre à ta question, parce que on a cette image avec le stéréotype négatif, mais au niveau médiatique, ça va être. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus des femmes qui sont maquillées. Si on regarde à l'athlétisme, qui ont beaucoup de bijoux, qui ont les ongles faits, qui ont du mascara, etc. Et c'est très bien, hein, chacun son expression, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment cette image-là qui est quand même relayée majoritairement, quoi.
Bah, justement, si je peux rebondir, j'ai effectivement. Et j'ai... Mon impression, on va dire très personnelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de légitimation, en fait, de la femme qui joue au sport, enfin de la femme, enfin des femmes qui font du sport, qui jouent au foot, etc. Enfin là, je parle peut-être aussi pour le foot, justement avec en montrant qu'on peut être des vraies femmes traditionnellement qui rentreront dans les critères de la féminité. Et du coup, et tout en jouant en foot. Du coup, en fait, effectivement, je pense qu'on va promouvoir, et même en termes des affiches, etc. Et peut-être qu'il y a une pression un peu diffuse, mais toujours qui existe quand même pour les joueuses, par exemple, de foot, où il faut qu'elles soient, du coup, un petit peu féminines tout en jouant en foot. Autrement, on est des garçons manqués, quoi. On n'est pas des vraies femmes, en temps, bien évidemment, dans les critères normatifs de la féminité.
Et si je peux juste, ça m'a fait penser à ce que tu dis sur ce que tu as dit sur les affiches. Quelle image on montre aussi en STAPS, il y a des affiches qui sont faites depuis très longtemps sur les affiches des soirées STAPS, et qu'est-ce qu'on montre comme corps pour les femmes? C'est des corps dénudés avec des accessoires sportifs mais qui sont utilisés de manière érotisée, sexualisée, et pas du tout de manière on voit pas, il y a pas de musculature apparente, elles sont toutes très fines, toutes blanches, quasiment toutes blondes. Enfin voilà, il y a vraiment une image, c'est la même image qui est reprise un peu Barbie, qui est reprise à l'infini. Quoi.
Noémie, toujours, quel est l'impact psychologique du sexisme sur les personnes qui en sont victimes ?
L'impact psychologique, bah, déjà en termes de dévalorisation de soi, en termes de perte de confiance. Est-ce que je vais m'autoriser ou non à aller dans telle ou telle filière ? Est-ce que je vais avoir confiance pour postuler pour... tel ou tel poste professionnel, telle responsabilité, le repli sur soi. J'ai une étudiante que j'avais eue en entretien. Alors, c'est sexisme, c'est aussi lesbophobie. Et c'est quel est l'impact des remarques quotidiennes des étudiants et étudiantes autour d'elle qui lui posent sans cesse des questions sur avec qui elle aime et pourquoi pas avec des garçons, mais encore une nouvelle fille, etc., etc. Et sur le fait qu'elle-même, du coup, trouve son corps dégoûtant, elle se repousse elle-même, elle se dénigre complètement, elle perd complètement confiance en elle, elle perd 10 kilos. Ça peut avoir des conséquences psychologiques dévastatrices, quoi.
Merci. Je laisse Justine, du coup, finir sur la dernière question.
Peut-être on peut demander comment lutter contre le sexisme en sport. Est-ce qu'on peut faire un petit listing, par exemple ?
Pour répondre avec les débuteuses, je pense que notre manière c'était de créer cette association et d'essayer d'y participer, d'aller s'entraîner, d'essayer d'être ensemble, essayer de se réapproprier le terrain. C'est une manière, on va dire, un peu militante. Faire aussi peut-être une sensibilisation à l'homophobie, à la lesbophobie qui peut exister dans certains clubs. Là, c'est pareil, peut-être essayer de réfléchir pour être un petit peu plus inclusive dans le sport et permettre à une diversité de personnes de venir jouer et pas qu'une femme hétéro, cis et blanche.
Je partage vraiment ce qui vient d'être dit sur la nécessité d'ouvrir les espaces de manière inclusive et pas uniquement... pour une certaine catégorie de femmes. Et par rapport à comment lutter contre le sexisme dans le sport, j'ai l'impression que ce qui va être important, c'est de parler, de dire stop face aux insultes, de dire stop face aux blagues, à l'humour qui n'est pas si innocent que ça, face aux petits mots qui sont dits au quotidien et que souvent on laisse passer parce qu'on sait pas trop quoi dire, mais au final, quelles conséquences ça a derrière. Voilà, ne pas laisser passer, avoir un langage qui permet de visibiliser, qui permet à chacun, chacune de se sentir inclus dans le groupe, dans l'équipe. Être à l'écoute aussi, offrir un espace de parole, un espace où les joueuses vont pouvoir venir se confier, vont pouvoir venir dire si jamais il se passe quelque chose, que ce soit du sexisme, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit... tout type de violence, offrir un espace d'écoute et l'afficher, le visibiliser, et puis donner des modèles aussi, donner des modèles à toutes les jeunes, que ce soit en termes de sportifs professionnels, mais aussi d'entraîneuses, présidentes de clubs, dirigeantes, etc. Et puis proposer des formations, je pense que c'est essentiel, parce que c'est pas facile de réagir, c'est des thématiques qui touchent à l'identité, à l'intime, donc c'est jamais facile de réagir face à ça, parce que ça touche aussi les gens à qui on parle sur leur propre identité, leur propre positionnement, donc la formation, ça me semble être un point essentiel et indispensable.
On s'est demandé comment lutter contre le sexisme dans le milieu sportif, mais peut-être qu'on devrait juste rappeler dans quel but.
Pour ça, j'aimerais citer Béatrice Barbus, qui est sociologue du sport et qui a été présidente du club professionnel US Ivry Handball. Elle a écrit dans son ouvrage « Du sexisme dans le sport », il ne s'agit pas de créer une égalité mathématique parfaite entre les hommes et les femmes, mais simplement de faire en sorte que les femmes aient les mêmes possibilités que les hommes de s'engager dans le sport.
Ça me rappelle dans notre épisode sur les femmes en sciences, Isabelle Collet, elle nous disait qu'il était important, selon elle, de favoriser la présence des femmes dans le milieu scientifique, pour un enjeu de justice sociale. Pour moi, c'est un peu le même combat qui se joue dans le monde du sport et dans le reste de la société.
Si vous vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan psychologique mais aussi juridique.
Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr.
En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide aux victimes de discrimination et des associations féministes si vous êtes concerné par des situations de sexisme.
Et pour faire valoir vos droits en cas de discrimination et de sexisme, vous pouvez saisir le défenseur des droits.
Pour plus d'informations, on vous conseille de vous renseigner auprès des débuteuses ou auprès du collectif Égal Sport qui s'engage pour l'égalité des femmes et des hommes dans le sport.
Mais assez parlé, c'est à vous maintenant de prendre la parole.
Vous étudiez à l'Université Lyon 1 et vous souhaitez à votre tour partager votre histoire en témoignant dans ce podcast.
Ou vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part.
Contactez-nous à l'adresse podcast.amphi25@univ-lyon1.fr.
On a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter.
Et de vous accueillir à nouveau dans l'Amphi 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations.
Merci à Emma d'avoir partagé son témoignage.
Merci à Noémie Drivé, Justine Caro et Valentine Lopez.
Retrouvez Amphi 25 sur vos plateformes de podcast préférées.
Abonnez-vous.
Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.